RCF.
La Bible a plusieurs voix. Vous entendrez aujourd'hui les voix de
Marie-Pierre Desfossés,
Jean-Luc Autrette,
Malou Lebars, et merci à Guilhem Thiennot à la technique. Bonjour à tous, nous allons aborder aujourd'hui un texte qui est sans doute assez familier de la plupart des auditeurs de cette radio. C'est le texte où il est question de la nativité de Jésus. Nous sommes dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 2. Et donc nous avons choisi de lire ensemble ce passage parce que peut-être que cette période dans laquelle nous sommes a besoin d'entendre ce message à la fois de douceur et de quelque chose d'inouï qui est en train de naître dans nos cœurs et dans la vie du monde. Voilà. Alors, je vous propose tout de suite d'entendre la lecture de ce passage, hein, donc le début du chapitre 2 de l'Évangile de Luc.
Or, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth, en Galilée, à la ville de David, qui s'appelle Bethléem en Judée, parce qu'il était de la famille et de la descendance de David, pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôte. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit : « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un Sauveur qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu et disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. » Or, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. » Ce que le Seigneur nous a donné, nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né, couchés dans une mangeoire. couché dans la mangeoire.
Voilà ce récit qui peut-être, pour nous, a des accents un peu merveilleux si nous nous référons un peu à ce que nous y avons entendu quand nous étions enfants et puis tout ce qui touche aux rites, aux habitudes autour de la crèche avec, voilà.
Avec les santons.
Avec les santons, l'âne et le bœuf, voilà, tout cela. Donc, bien sûr. C'est difficile pour nous de nous dire, eh bien voilà, on va prendre le temps de lire ce texte de Luc et peut-être qu'il faudra un peu dépouiller notre imaginaire par rapport à
nos représentations
par rapport à ce que Luc, l'évangéliste, veut nous faire partager ici, veut nous faire entendre hein, et qui est quand même d'une assez grande sobriété. Mm-hmm. Par rapport à tout ce qui pourrait être merveilleux, mais qui en même temps est presque déjà une manière théologique de dire la venue de celui-là dans ce monde, hein, donc voilà, de celui qui est le sauveur du monde, Jésus, le Christ Seigneur. Alors, peut-être que aussi, dans un premier temps, on pourrait se dire, si je regarde les premiers versets du chapitre 2, on nous dit que, ben voilà, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier ou la terre entière. Et ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de Syrie. Mais au départ, on pourrait aussi se dire que ce n'est pas exprimé tout à fait comme ça. On nous dit au verset 1, « Il arriva en ces jours-là que sortit un édit de la part de César Auguste. » Qu'est-ce que ça nous inspire, ça « Il arriva que »
Il advient que.
Oui.
Ça laisse entendre que... On est dans ce temps de l'avant, en fait, qu'il y a quelque chose qui doit advenir dans ce monde-là.
Oui.
Et d'ailleurs, on va retrouver ce terme dans cette traduction au plus près de cette traduction plus littérale. On va retrouver ce terme quasiment quatre fois de suite, en fait, à travers le texte qu'on vient d'entendre.
Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on peut le retrouver verset 6. Il arriva pendant qu'ils étaient là. Hein, que fut accompli les jours. Alors après, verset 13 aussi, soudain, il arriva avec l'ange. Et puis, j'ai peut-être...
Au verset 15, voilà, il arriva lorsque les anges s'éloignèrent.
Voilà. Donc ça, c'est peut-être un petit peu pour nous mettre en alerte. Il y a quelque chose qui survient, qui advient, on pourrait presque dire, dans la vie des hommes, dans la vie du monde. Et là, on fait fort quand même, parce qu'il arriva en ces jours-là que sortit un édit de la part de César Auguste. C'est pas n'importe qui quand même.
Non, c'est pas n'importe qui, non. Ça a été un des grands empereurs de Rome.
Le premier empereur
Tout
de
à
Rome.
Fait. Qui a donc établi cette fameuse Pax Romana, donc c'est pas rien non plus.
Oui, alors peut-être faut être un peu plus précis, parce qu'en fait il a pacifié en fait à peu près toutes les régions qui avaient été conquises par le pouvoir, par l'armée romaine, et c'est pour ça qu'il était presque considéré à son niveau aussi comme un héros, un sauveur même, pourrait-on dire. Hein, voilà.
Oui, tout à fait.
Dans le monde des hommes, il y avait un sauveur qui a été en mesure peut-être d'établir du moins un temps de paix relative. Alors on nous dit que par son édit, César Auguste, a vécu... quelques années, a été empereur quelques années avant le début de notre ère et une quinzaine d'années après aussi. Hein, donc voilà. Et donc, on nous dit qu'il a donné cet édit pour que soit recensée toute la terre habitée ou le monde entier. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça aussi ?
Il nous faut tout de suite nous éloigner aussi de ça, parce que toute la terre habitée, ça ne correspond pas non plus à l'empire de César Auguste, c'est bien au-delà.
Alors peut-être qu'on a entendre autre chose derrière ça.
Oui, oui, tout à fait. Là, l'évangéliste nous laisse entendre qu'il y a un caractère universel dans ce qui va devenir, en fait.
Voilà. Alors, c'est vrai que le monde entier, la Terre habitée, elle fonctionne avec ses lois, son organisation, son administration, et que si on nous dit après que ce premier recensement a eu lieu pendant que Quirinius était gouverneur de la Syrie, donc on sait que la Palestine à l'époque dépendait de...
Faisait partie de cette région.
De
oui.
cette région, là, était donc sous le pouvoir romain par l'intermédiaire, voilà. Mais donc... Qu'est-ce que ça veut dire de la part des humains quand on cherche comme ça à recenser la population tout entière ?
Ça veut dire très trivialement qu'on cherche des sous.
Vous voulez dire par là que c'est bon pour les impôts,
voilà,
quoi, c'est ça ?
Voilà, tout à fait, qu'il va falloir percevoir des impôts.
Voilà.
Et que par d'autre côté, peut-être aussi, il est question de recruter des soldats pour maintenir cette fameuse paix.
Voilà. Alors donc, c'est dans ce contexte-là que quelque chose d'autre va... advenir. Mais ça, c'est un peu nous dire, c'est dans notre monde tel qu'il tourne avec ses pouvoirs, son pouvoir dominateur, son organisation sociale. C'est là-dedans qu'il y a quelque chose de radicalement neuf qui va advenir. Alors, on nous dit, verset 3, tous allaient se faire inscrire, recenser, chacun dans sa propre ville. Et le verset 4, du coup, Joseph aussi. Joseph, il monte de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David qui s'appelle Bethléem en Judée parce qu'il était de la famille et de la descendance de David pour se faire recenser avec Marie, son épouse ou sa promise qui était enceinte. Voilà. Donc on en arrive à ces deux figures-là, Joseph et Marie.
Oui, dans le tout, il y en a deux dont on va nous parler.
Oui. Alors Joseph, souvent c'est considéré parfois comme celui qui est un petit peu...
Oui, il y a déjà le précédent Joseph. Avec,
oui. Ah oui, déjà, mais peut-être dans nos imaginaires aussi, Joseph, c'est celui qui est un petit peu à côté de la plaque,
oui,
quoi, finalement,
oui,
et puis
oui,
qui
oui.
est, voilà, toute l'ironie parfois qu'on trouve dans certains écrits sur ce personnage-là. Mais Joseph, en fait, c'est vrai qu'il y a eu un autre Joseph
oui.
dans le Premier Testament, et cet autre de Joseph était le fils de Rachel et de Jacob. Rachel, c'était elle qui mettait au monde le fils de la promesse. Et quand elle a mis au monde Joseph, elle a appelé Joseph, parce que Joseph, ça veut dire qu'il y a un ajout, il y a un autre ajouté, et l'autre ajouté, le fils qui va venir après Joseph, ça sera Benjamin. Alors, peut-être que ça peut être intéressant pour nous de nous dire aussi, Joseph, il porte un nom prédestiné qui nous dit qu'il y a auprès de lui, après lui, il y a un fils qui va advenir. Et donc, ce n'est pas rien que lui soit là dans l'accueil de cet événement. Alors, on nous dit qu'il est de la Galilée, de la ville de Nazareth. Et puis, il faut qu'il aille vers la Judée. Et vers la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David. Alors, ça, on n'en sait rien de ce qui a dû se passer. Enfin bon, c'est peut-être un peu osé de dire ça, mais ça procède de quelle intention ? Il faut que, finalement, celui qui va naître ait quelque chose à voir avec la maison de David.
Oui. Oui, oui, en venant qui plus est d'une région qui n'était pas forcément, qui n'avait pas une très grande renommée, la Galilée des nations, donc où tous les peuples se côtoient et qui n'est pas non plus d'une grande réputation. Donc effectivement, ça va être un peu un grand écart entre cette région et puis donc le berceau de la royauté à travers le personnage de David.
Voilà. Alors donc c'est vrai que dans le Nouveau Testament, il sera appelé aussi Jésus, fils de David.
Hein,
donc, cette descendance, cette ascendance plutôt davidique, pour lui, c'est donc la marque de l'onction royale. Hein, donc, voilà. Et puis, vers la ville de David, la petite ville de David, Bethléem. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire, Bethléem ? Donc, on pourrait peut-être...
Bethléem, ça veut dire la maison du pain.
Alors déjà, ça peut-être c'est intéressant pour nous. Hein. C'est une petite ville qui est située au sud-est de Jérusalem. Hein. Donc, et il sera peut-être intéressant là d'évoquer qu'on a déjà parlé de cette petite ville.
Le prophète Michée en a déjà parlé.
Dans le Premier Testament, hein, voilà, dans le, au 8e siècle avant Jésus-Christ, le prophète Michée avait déjà dit « Et toi, Bethléem Ephrata, le moindre des clans de Juda, c'est de toi que naîtra celui qui doit régner sur Israël. » C'est pas rien quand même. En quelque sorte, le récit de Luc fait que l'écriture s'accomplit, ce qui avait été annoncé par le prophète s'accomplit en disant que le Messie naîtrait à Bethléem de la maison et de la lignée de David. Voilà. Donc c'est vrai aussi que dans la généalogie de Jésus, on dit qu'il descend en quelque sorte de David et par Joseph, mais Joseph, l'époux de Marie, de qui naquit Jésus. Voilà. Alors, sur l'expression avec Marie, son épouse ou sa promise qui était enceinte, vous avez envie de commenter ça un petit peu ? Qu'est-ce que vous diriez ?
La promesse, c'est quelque chose qui n'est pas encore réalisé, qui va se réaliser.
Oui, mais donc, par rapport à, si on dit promise en mariage ou épouse, pour vous, ça ne dit pas tout à fait la même chose, quoi. En fait, si on met son épouse qui était enceinte, on pourrait dire, bah oui, ça se passe dans les règles de l'art.
On aurait pu traduire comme ça, c'est d'ailleurs traduit comme ça dans la tome, mais c'est vrai que cette notion de promise rappelle, comme dit Marie-Pierre, la promesse, et cette promesse, en fait, de Dieu qu'un sauveur viendra pour son peuple.
C'est donc, une parole, on peut dire que c'est une parole féconde aussi.
Voilà, exactement.
Une fécondité.
Oui, alors il faut savoir que c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, que nous avons aussi l'annonce de Gabriel à Marie, qu'elle mettra au monde le fils du Très-Haut. Hein. Donc je pense que c'est intéressant d'évoquer ça aussi. Et Marie, elle est entièrement disponible à recevoir la parole qui va la féconder. C'est ça, sa virginité. Ça qui fait qu'elle-même, elle va réaliser dans tout son être, elle va réaliser, elle va mener à l'accomplissement la fécondation de la parole. Elle est fécondée par la parole. Hein, donc voilà. Alors, donc, verset 6, on a juste cette précision. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Donc, on dit aussi, pendant qu'ils étaient là, il arriva que furent accomplis les jours pour qu'elle enfante. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose que de dire elle est arrivée à la fin du 9e mois de grossesse, furent accomplis, peut-être qu'on a quelque chose
finalement
d'autre.
On peut dire que c'est l'accomplissement de la promesse qu'on a vu au verset précédent. La promesse, en fait, du dessein de Dieu.
Oui, donc là, il y a un temps où quelque chose est mené à son accomplissement. Hein, donc celui-là, le Verbe a pris chair et s'est fait homme. Hein, donc je propose une petite interruption musicale.
Petrus varandua pekon aglevan me naker eo ar mouezio azeuz lenon ne eled la variteon perago kan awen erbet petra Big Beniget Rouge.
Nous lisons dans le chapitre 2 de Luc ce fameux récit de la nativité, de la naissance de Jésus, et nous avons vu que ça s'inscrit dans un recensement de tout le monde habité, donc l'inscription d'un nom quelque part, du nom quelque part dans un lieu, dans une lignée, c'est ce qui nous concerne tous. Hein, donc ça veut dire que c'est une manière de dire que cet événement, il concerne la vie de tous les êtres humains. L'être humain se définit ainsi, par sa naissance dans un lieu, dans une lignée, c'est commun à tout le monde. Mais en même temps, on avait souligné aussi que cet événement avait une portée universelle, ça concernait tout le monde habité. Alors, il se trouve que donc, nous sommes à Bethléem, la ville du pain. Et voilà, je reprends versets 6, 7. Il arriva pendant qu'ils étaient là, donc Marie et Joseph, donc, que furent accomplis les jours pour qu'elle enfante. Elle enfanta son fils. Voilà, elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôtes, dans la salle commune. Ah, voilà. Donc, elle enfanta son fils le premier-né.
Oui.
Oui. Ce n'est pas l'aîné.
Ce n'est pas que l'aîné, on va dire. C'est, oui, le premier-né, sans doute le premier-né de toute une lignée d'humains, en fait, en quelque sorte.
C'est-à-dire que nous sommes dans un récit hein, qui a des résonances fortes théologiques. Celui-là, oui. C'est le fils premier-né hein, qui permet à tous les humains d'être fils du Père aussi. Hein. Voilà. Donc elle l'enveloppa de l'ange, on pourrait traduire de linge,
oui.
Et le coucha dans une mangeoire. Bon. Un peu étrange, non ? Qu'est-ce que vous
oui,
en pensez ?
Oui, bah, l'image est forte.
Alors, il n'y a que ces deux expressions-là qui définissent voilà, le premier-né, enveloppé de linge ou de l'ange, et couché dans une mangeoire. Est-ce que c'est juste pour nous dire, ah ben oui, ils ont été obligés de se replier dans une étable, parce que voilà, est-ce que c'est de ça dont il s'agit ? On ne dit pas ce qu'il n'y avait pas pour eux. Il n'était pas de place dans la salle d'hôte, on peut dire dans la salle commune.
Commune, oui.
Le monde de pouvoir ne pouvait pas accueillir celui-là.
Enfin, le monde, vous voulez dire le monde habituel
dans lequel qui tourne,
nous vivons, voilà. Il n'y avait pas de place pour eux, on pourrait presque dire dans la salle commune de l'humanité.
Oui.
C'est quelque
oui,
chose comme
oui,
ça.
C'est quelque chose comme ça, oui.
Pour eux, en tout cas, il n'y avait pas de place. C'est-à-dire qu'ils sont, à la limite, celui-là qui naît, il n'est même pas recensable de la même façon dans le monde des humains, tout en venant dans le monde des humains. C'est ça, la partie.
C'est ça. En fait, ça peut aussi nous rappeler les mots de Saint Jean. Et les siens ne l'ont pas accueilli.
Donc le Verbe, la parole est venue dans le monde, dans son bien propre, hein, c'est dans le prologue de Jean, oui, chapitre 1 de Jean, et les siens ne l'ont pas reçu. Seuls ceux qui sont, enfin cette part de l'humain qui n'est pas née du sang ni d'un vouloir d'homme, est en mesure de l'accueillir.
De l'accueillir.
Donc
oui.
On a présenté la vie du monde, la vie du monde qui tourne avec voilà, son économie, on peut dire aujourd'hui, son économie, voilà, sa course, la consommation.
Son matérialisme.
Voilà, ce monde-là, il tourne, c'est dans ce monde-là que nous sommes. Et ben, il n'y a peut-être pas de place. C'est difficile, en tout cas, qu'il y ait une place là-dedans pour cet événement-là qui pourtant va bouleverser ce qu'il y a de plus profond dans les humains. Et alors, l'histoire des langes et des linges, on peut peut-être évoquer l'iconographie dans les icônes orthodoxes. On remarque souvent que l'enfant de Noël... Mm-hmm. Eh bien, il est comme enveloppé de bandelettes déjà.
Oui. Et ça n'est pas sans nous rappeler un autre événement, qui est celui de la mise au tombeau de Jésus-Christ. Effectivement, il y a quelque chose de ces linges-là, du rapport avec les linges du tombeau.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est peut-être une manière discrète de suggérer que celui-là, il prend la condition humaine et donc il va aussi passer par la mort. Mmh. Il va passer par la mort. Mmh. Hein. Et Marie le coucha dans une mangeoire. Alors ça peut nous sembler étonnant aussi, mais enfin, c'est vrai que tout de suite on fait venir un ange et un bœuf, mais l'ange et le bœuf ne sont venus que bien tardivement dans l'histoire. C'est avec François d'Assise, même s'il y a des signes de présence de bœuf et d'âne déjà dans le Premier Testament aussi. Oui.
La salle commune aussi sera évoquée lors de la scène. C'est là que va se passer le dernier repas où Jésus dira qu'il se donne aussi en nourriture.
Oui, alors vous voulez dire que donc les deux emplois du même terme qu'on peut traduire par la salle commune dans l'évangile de Luc, c'est ici donc, et dans le chapitre 22 où il est question de scène, Jésus qui dit ceci est mon corps, et voilà. Oui. Donc ça c'est très intéressant pour nous aussi, et on entend davantage que quand Marie le couche dans une mangeoire après l'avoir enveloppé, c'est qu'elle le donne en quelque sorte,
oui, tout ça,
en nourriture.
Ce sont des indices en fait, parce que comme nous rappelait Marie-Pierre tout à l'heure, c'était dans la ville du pain à la fin. Hein, c'est donc tout ça est quand même c'est très cohérent quoi. Si on fait attention, on fait attention, si on écoute véritablement le texte, qui nous dit, c'est cela, oui.
Donc finalement, ce récit-là, il a une valeur hautement théologique, et parce que ça nous dit déjà, c'est comme dans un condensé déjà de ce qu'il en est de Jésus, quoi, le Jésus qui sera
une forme d'introduction,
le Sauveur, le Christ, voilà. Alors, le verset 8 nous dit qu'il y avait des bergers qui étaient dans cette même région, ils vivaient là, donc dans les champs, et ils veillaient sur leurs troupeaux. Et donc, on pourrait dire, pour traduire plus précisément, ils veillaient les veilles de la nuit sur leurs troupeaux.
De la nuit, oui.
C'est beau, ça, non ?
Oui, c'est magnifique. D'autant que ça rappelle la parole des prophètes à ce sujet, d'être dans cette posture de veilleur, en fait.
Oui, mais en même temps, les bergers sont ce sont des gens exclus aussi parce qu'ils sont impurs, ils s'occupent des animaux, ils sont toujours un peu à côté de la plaque.
Ils n'ont pas de reconnaissance sociale. Non,
à la limite, est-ce qu'ils sont même recensables tellement. Voilà, il y a cet écart-là, surtout que chez Luc, il y a toujours cette attention à tous les petits de la terre. Mais donc, eux, ils sont dans les veilles, ils veillent les veilles de la nuit sur leurs troupeaux. Ils ont ce souci pastoral, là, déjà. On y reviendra dans une prochaine émission. Merci d'avoir été avec nous sur RCF.